BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good Evening Business, Guillaume Paul.
Bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Merci d'avoir choisi BFM Business plutôt que France Pologne. Vous avez raison, si ça se trouve, il se passera plus de choses ici que là-bas sur le terrain. Il se trouve qu'on a beaucoup de choses à vous raconter ce soir, qui plus est dans l'actualité entreprise. Ça nous changera un petit peu la politique. D'abord, dans le luxe, Bernard Arnault qui met un petit pied chez Richemont. C'est pas anodin parce qu'on lit, on entend depuis un certain temps que LVMH s'intéresse de très très près aux géants suisses du luxe. On va voir ça avec Pauline Tadevin dans un instant. Journée cauchemardesque sinon pour les titres Airbus à la Bourse de Paris. Il a perdu un peu plus de 9%. Jean-Baptiste Huet va nous raconter ce qui s'est passé. Les programmes électoraux, bien sûr, on va continuer à les fouiller ce soir sur BFM Business. Dans un quart d'heure, Edwige Chevrillon recevra le spécialiste des finances publiques François Eckel. Et la constitutionnaliste Anne-Charlène Benzina appuie de ses programmes électoraux. Entre autres, on parlera avec nos experts qui arrivent bien sûr dès 18h30. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, ça fait longtemps, très longtemps qu'on entend dire que LVMH, leader mondial du luxe, bien sûr, s'intéresse de très près au géant suisse Richemont. Eh bien, à en croire l'agence Bloomberg, bonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir Guillaume.
À en croire Bloomberg, Bernard Arnault aurait pris à titre personnel, je cite, une petite participation, je cite toujours, à son capital. Est-ce que c'est le début d'une action plus large? C'est une question qui se pose forcément, Pauline.
On est en mesure de vous le confirmer ce soir sur BFM Business. D'après nos informations, qui confirment celles donc, de Bloomberg, il s'agit d'une petite participation, hein, une petite ligne dans le portefeuille d'un fonds familial parmi des centaines d'autres, martèle une source qui précise qu'il n'y a rien d'autre à y voir et que cette prise de participation n'est pas du tout annonciatrice d'un éventuel rachat de Richemont par LVMH, d'autant qu'une telle opération se heurterait forcément aux autorités de la concurrence, nous dit Luca Solca, analyste chez Bernstein. Mais une petite phrase de Bernard Arnault fin janvier résonne aujourd'hui tout à fait différemment. Il déclarait alors qu'il n'avait aucune envie de déranger la stratégie de Johann Rupert, le patron de Richemont, qu'il considérait comme un dirigeant exceptionnel, mais que si Johann Rupert avait besoin de soutien pour maintenir son indépendance, il serait là. Après une approche de Kering, le patron de Richemont a soutenu que son groupe n'était pas à vendre. Il a dit aussi l'an passé qu'il était en contact permanent avec Bernard Arnault dans le respect mutuel de leur indépendance. La prise de participation de ce dernier, aussi minoritaire soit-elle, est révélée en tout cas alors que Kering est désormais occupé par tout un tas d'autres dossiers, dont le redressement de son navire amiral Gucci.
Absolument. On rappelle, Richemont, ce sont des marques prestigieuses, évidemment.
C'est Cartier, c'est Van Cleef & Arpels.
En tout un catalogue de belles marques. Voilà, en tout cas, pour ce petit mouvement.
Qui vont bien, en tout cas.
Qui vont bien, effectivement, comme va toujours bien le secteur du luxe. On ne cesse de le répéter, bien sûr, sur BFM Business. Merci, Pauline. Pauline Tadevin avec nous ce soir dans Good Evening. Le titre LVMH a progressé ce soir. On verra ça, bien sûr, avec Étienne Braque dans un instant. La journée était épouvantable, en revanche, pour le titre Airbus, qui a dégringolé ce soir d'un peu plus de 9%. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Guillaume.
Pourquoi est-ce que ça a dégringolé? Pourquoi? Parce que le groupe annonçait ce matin, un, qu'il livrerait finalement moins d'avions que prévu cette année, deux, qu'il allait passer 900 millions de charges à cause de plusieurs programmes spatiaux qui ne se portent pas, eux, très très bien. Bah forcément, les marchés n'ont pas aimé, Jean-Baptiste. Hein.
Beau petit profit warning. Ouais. 770 avions livrés cette année contre 800 espéré. C'est la nouvelle prévision d'Airbus. Mois après mois, on se rend l'évidence, la chaîne de sous-traitance ne parvient pas à suivre la cadence des commandes. C'est particulièrement vrai, explique Guillaume Faury, patron d'Airbus, pour les aérostructures, les équipements de cabine et surtout les moteurs. La situation est telle qu'une fois encore, Airbus se retrouve avec ce qu'on appelle des planeurs, des avions sur le tarmac qui attendent leurs moteurs. Il y en a beaucoup qui commencent à s'accumuler à Toulouse. Alors les motoristes, justement, l'américain Pratt & Whitney, mis en cause par Guillaume Faury, mais également CFM International, qui est la co-entreprise de Safran et General Electric. Le patron de Safran, Olivier Andriès, l'a dit il y a quelques jours, la demande n'a jamais été aussi forte et l'offre jamais aussi fragile. Covid, guerre en Ukraine, troubles géopolitiques, choc énergétique, inflation, vous avez toute la chaîne de sous-traitance qui est malmenée depuis 4 ans et le retour à la normale est beaucoup plus long que prévu. La situation s'est même dégradée ces derniers mois, c'est ce qu'explique Guillaume Faury. Résultat des courses, Airbus modifie ses cadences de production. Le groupe avait prévu 75 avions par mois d'ici 2026, ouais. Des monocouloirs, et bien raté. et ce sera pour 2027, donc un an de retard. Et puis vous l'avez dit, les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, puisque la division spatiale continue de souffrir. Airbus, ces derniers mois, a fait un petit peu le ménage dans ses différents programmes, et effectivement, résultat, le groupe passe une charge de 900 millions d'euros. Airbus qui revoit ses objectifs financiers à la baisse pour cette année. Le bénéfice opérationnel attendu sera autour, si tout va bien, de 5,5 milliards contre 7 milliards initialement prévus.
Bon, c'est quand même rare de voir Airbus à ce point chahuter à la Bourse de Paris.
Franchement, oui. Ouais, là, on a touché même le 11-12%, donc c'est rare. Ouais.
On a cumulé les mauvaises nouvelles. Ce sont des choses qui arrivent, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. Et puis, alors, autre action sur laquelle ça s'agit depuis 24 heures, si vous suivez l'actualité des entreprises, vous êtes forcément au courant, c'est le titre Eurofins. Moins 16% hier, quelques pourcents de récupérés ce soir. Vous savez que le groupe a été accusé hier de malversation comptable, rien que ça, par le fonds américain Muddy Waters. Eurofins a réagi aujourd'hui et dément catégoriquement ces accusations. Hélène Cornet.
La bataille de communication a commencé. Eurofins dit vouloir fournir en temps voulu des réfutations plus détaillées, mais d'ores et déjà, le groupe liste tout un tas d'inexactitudes dans le rapport de Muddy Waters, à commencer par l'intégrité des comptes de l'entreprise, entièrement contrôlés et certifiés par des audits financiers. Si le revenu par employé est certes plus élevé que chez les concurrents, explique Eurofins, c'est en raison d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Tout est profondément calomnieux, conclut le patron du groupe, Gilles Martin, dans un communiqué, et n'a pour seul but que de tirer profit de la baisse du titre. Le laboratoire n'a pas abordé en revanche la question des transactions immobilières douteuses, un des arguments les plus sérieux de ce rapport, selon les analystes Dodo. Pour eux d'ailleurs, le vrai risque pour l'entreprise, c'est une atteinte à sa réputation. Contacté, Muddy Waters dit maintenir ses accusations contre Eurofins et rappelle que tout le monde commence par nier dans un premier temps, y compris Jean-Charles Naouri chez Casino.
Hélène Cornet, dans l'actualité ce soir, a priori, c'est fait. Ursula von der Leyen va repartir pour 5 ans à la tête de la Commission européenne. Un accord a été trouvé entre les grandes capitales, Paris et Berlin. Accord aussi avec les principaux partis politiques européens. Tout ça devrait être entériné lors du sommet européen qui aura lieu jeudi et vendredi du côté de Bruxelles. Puis quand même, un petit mot de la campagne des législatives en France. Avec le message ce matin du patron de l'UDP sur BFM Business, l'UDP qui défend les intérêts des indépendants. Lui demande une seule chose en fait aux candidats, c'est de ne pas lâcher sur la simplification du travail et la simplification administrative. Écoutez ce qu'il nous disait.
Cette loi, qu'on la porte, que le gouvernement qui arrive la porte, et puis dans les années qui viennent, puisque nous avions un rendez-vous annuel pour la réactualiser et aller plus loin dans les mesures de simplification, mais qu'on parte de la base de ce travail auquel nous travaillons depuis plus d'un an et demi, plutôt que de tout casser, tout virer, tout recommencer. Le pays, il est malade de ça. Il est malade de ces alternances où on dégage tout au motif que, comme c'était des gens avec qui on n'était pas d'accord, tout ce qu'ils ont fait, c'est mal. Non. Il faut que ceux qui vont avoir le pouvoir demain prennent un peu le recul nécessaire pour que ce qui est en attente dans la loi simplification qui correspond aux entreprises, ce qui est en attente dans la loi travail qui correspond aux besoins des petites entreprises, eh bien, ça soit repris, aménagé peut-être, rediscuté, renégocié, mais qu'on reparte pas de zéro, parce que dans 2 ans, il n'y aura encore plus rien.
Voilà le petit coup de gueule de Michel Picon, le président de l'UDP, ce matin sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Étienne Brack, bonsoir. Euronext, La Défense, comment ça s'est passé cette journée, Étienne, sur le CAC 40?
Bah écoutez, après avoir gagné plus d'1% hier, le CAC 40 rend 0,58% aujourd'hui. Sans Airbus, il serait quasiment stable. Mais figurez-vous qu'avec une capitalisation de 70 milliards, avec une baisse de 10%, forcément l'impact n'est pas neutre. Moins 9% ce soir pour Airbus après son warning. Dans le sillage, vous avez Safran qui cède plus de 3%, Thales moins 2%, General Electric qui perd quasiment 2% également ce soir à la clôture. Heureusement, le luxe est là pour amortir le coup avec des hausses de plus d'1% pour LVMH. Vous avez Richemont avec donc cette nouvelle qui prend plus de 3% ce soir à la clôture à Zurich. Et puis à commencer à noter que vous avez certaines publications hors CAC 40 qui se passent pas très bien. Regardez du côté de Trigano, les camping-cars moins 6% avec un secteur qui est en train de se normaliser, des perspectives qui peinent à convaincre. Le titre perd donc quasiment 6% ce soir à la clôture à 112,90 €, et donc un CAC 40 qui cède du terrain moins 0,58% sous les 7700 points à 7662 points.
Merci beaucoup. Coucou Étienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est bien sûr à la mi-séance. Le Dow Jones perd 0,8%, 39 101 points en ce moment. L'indice Nasdaq de son côté qui s'envole d'1,1%. 17 693 en ce moment. Il est 18h09. Deux invités avec Edwige Chevrillon dans un instant pour évoquer l'actualité des législatives. La constitutionnaliste Anne-Charlène Benzina et le spécialiste des finances publiques François Eckhall. La grande interview à suivre sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon. La grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités ce soir à 5 jours du premier tour de l'élection législative, car il y a beaucoup de questions sur la table. La question d'abord constitutionnelle, pour savoir, ben, par exemple, est-ce que session extraordinaire est obligatoire ? En fait, pas du tout. Quelles sont les conditions pour cette session extraordinaire ? Le budget 2025, est-ce qu'on pourra le voter ou pas ? Qu'est-ce qui se passera ? 49-3, mais quid ensuite ? Et puis aussi d'autres questions, bah tiens, par exemple, si le président démissionne, on en parlera avec Anne-Charlène Benzina, constitutionnaliste, qui est déjà avec nous. Bonsoir Anne-Charlène.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous. En face de vous, François Eckhall. François Eckhall, il est président de Fipeco, c'est le meilleur teneur des écritures, des comptes publics. Bonsoir François.
Bonsoir.
Merci d'être là. Pour vous, les questions, bah, elles sont un peu évidentes. J'imagine que vous avez écouté d'abord le grand oral que j'ai fait passer aux différents candidats sur le programme économique devant le MEDEF. Et surtout, depuis vendredi, il y a eu la présentation chiffrée. Alors, il y a tous les économistes qui sont là pour justifier toutes ces dépenses ou ces chocs fiscaux. Mais en fait, bien sûr, il y a des recettes. Hier, c'était le Front National, le Rassemblement National. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, François Eckhall ? Est-ce que, ou plutôt, est-ce que vous êtes rassuré ?
Ah non, je ne suis pas rassuré.
Vous avez entendu.
Je ne suis pas du tout rassuré. Si je m'en tiens aux finances publiques, parce qu'on peut ne pas être rassuré pour des tas d'autres raisons.
Voilà. Non, on parle pas de politique, on parle de finances publiques et de constitution.
Voilà, donc ce que je constate, c'est que, bon, il y a en effet, surtout du côté du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National, plein de dépenses publiques difficiles à chiffrer, donc avec des chiffrages, voilà, on a beaucoup de chiffrages.
Donc vous ne croyez pas les chiffrages.
La seule certitude, c'est que même si on tient compte des économies qui sont annoncées, ou des hausses d'impôts, d'ailleurs, souvent des hausses d'impôts, on a devant nous une aggravation du déficit public de quelques dizaines de milliards d'euros. Bon. Du côté du centre, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Mais en revanche, ce qu'on oublie du côté du centre, c'est de faire des économies. Oui. Il n'est plus du tout question de faire des économies. Oui. Et donc moi, j'ai fait un petit calcul très simple, qui consiste à dire, dans l'hypothèse la meilleure dans ce scénario, c'est que les dépenses nouvelles soient quand même financées par des économies, mais qu'on ne fasse rien de plus. Voilà, pas d'économies. Et donc dans ces conditions-là, le déficit public actuel, il peut diminuer un tout petit peu, mais très peu, avec des hypothèses macro un peu optimistes aussi. Le résultat, c'est qu'on a une dette publique en 2030 qui est automatiquement supérieure à 120% du PIB. Voilà. Donc la dette publique augmente inévitablement, et quand je dis 120% du PIB, je suis sûr qu'elle sera au-dessus. Je pense qu'elle sera très nettement au-dessus. On va vers les niveaux italiens, hein,
alors,
en fait.
Ouais, d'accord. Bruno Le Maire a dit qu'il y a un risque. Si éventuellement les deux extrêmes l'emportent, il y a un risque de mise sous tutelle du FMI. Là, on agite le chiffon rouge, vous croyez pas, vous y croyez pas?
Alors, c'est pas le FMI. On est en Europe, donc ça sera pas le FMI. Le risque, en effet, c'est que les marchés, voyant ce dérapage de la dette publique, se mettent tout d'un coup à s'inquiéter, donc demandent des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et à ce moment-là, la grande question, c'est pas que va faire le FMI, c'est que fait la BCE.
On peut avoir les deux, si je puis me permettre. Hein. Là, c'est la Grèce, elle avait les deux. La Grèce, elle avait les deux, hein, François Eckhall.
Oui, mais parce qu'on avait créé avant, maintenant, il y a une espèce de FMI européen. Et la BCE a les moyens d'intervenir aujourd'hui. Et c'est ça, la raison pour laquelle je pense que les marchés ne s'inquiètent pas trop pour le moment. En dehors du fait qu'ils ne savent pas ce qui va se passer exactement, donc ils attendent. Ils savent que la BCE a les moyens juridiques et financiers pour intervenir, acheter en quantité illimitée les titres d'un État en difficulté. Le problème, c'est qu'elle ne peut le faire que sous certaines conditions. Il y a deux conditions. La première, c'est qu'on respecte les règles budgétaires européennes. Et la deuxième, c'est qu'on ait un endettement public soutenable, comme disent les économistes. Ça veut dire à peu près la même chose que respecter les règles. Ça veut dire quand même donc faire des efforts de redressement des comptes publics.
C'est colossal, parce que pour l'instant, on ne respecte aucune règle.
On ne fait aucune. Alors, donc, dans ces conditions-là, si les marchés s'inquiètent, le premier scénario, c'est la BCE intervient quand même. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a moins de deux ans, la Banque d'Angleterre est intervenue, fait discrètement comprendre au gouvernement en question qu'il faudrait quand même changer de politique économique, on change radicalement de politique économique. L'autre hypothèse, c'est le gouvernement en question, qu'il soit à gauche ou à droite, ne veut rien entendre et dit à la BCE, mais de toute façon, vous nous soutiendrez toujours parce que nous sommes too big to fail. Ouais. Vous ne nous lâcherez jamais parce que si vous lâchez la France, c'est la zone euro qui explose. Ouais. Mais je pense que les marchés ont ça en tête.
Ouais,
c'est-à-dire qu'ils se disent
tort,
que de toute façon, la BCE sera toujours là. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense que le scénario avec une dette à 120 ou 125 ou 130% du PIB, il n'est pas improbable. Et il se peut très bien qu'on arrive à ce niveau d'endettement sans qu'il ne se passe rien sur les marchés, simplement parce qu'ils savent que Mme Lagarde peut avoir un fusil atomique dans la poche et qu'elle peut, elle peut intervenir massivement.
Il y a un point qui met en avant beaucoup le Rassemblement National, c'est le fameux audit sur les comptes publics en disant on ne fera rien par la réforme des retraites avant. C'est l'audit, parce qu'on veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a sous le tapis. Vous qui auscultez, vous êtes un peu la terreur de Bercy, est-ce qu'il y en a beaucoup sous le tapis ?
Enfin, alors, je termine juste. Le risque pour moi, à un horizon de très long terme, c'est même si la BCE intervient, etc., c'est un éclatement de la zone euro. C'est-à-dire qu'à très long terme, ceci, même si la BCE nous soutient et si on fait n'importe quoi, les autres pays ne l'accepteront pas. Donc un jour ou l'autre, il y aura un éclatement par la sortie d'un pays du Nord, pas un pays du Sud, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient protégés par l'euro, mais la sortie d'un pays du Nord de la zone euro.
Ouais.
L'histoire se terminera comme ça.
Ah là, vous n'employez même pas le conditionnel. Hein.
On est parti pour. Hein.
C'est très grave.
On est parti. Non, moi, je suis très, très inquiet.
Donc, il y a un risque.
On est parti. C'est pas le FMI, moi, je vois.
De la zone euro.
Et après, ça sera le FMI. Parce qu'une fois qu'on sera sorti de la zone euro, là, ça sera le FMI.
Ouais.
Et donc, pour ce qui est de l'audit, je pense que il y a toujours eu des audits au moment des grandes alternances. Je les ai fait d'ailleurs moi-même, j'en ai fait 3 ou 4. Ce que montrent ces audits en général, c'est que les prévisions techniques du ministère des Finances sont plus pessimistes que les prévisions officielles.
Ouais.
Ceci dit, pour cette année, en fait, on n'aura pas beaucoup de surprises parce qu'on le sait déjà. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a fait une enquête sur place à Bercy en mars dernier et il a obtenu ce que n'avaient jamais obtenu ses prédécesseurs jusque-là, c'est d'ailleurs toutes les prévisions internes de Bercy. Et donc en fait on sait à peu près de quoi il retourne pour 2024 et 2025. Donc il n'y aura pas vraiment de surprise. Après, l'audit des finances publiques, ça a toujours été utilisé aussi en termes de communication mes prédécesseurs avaient caché des tas de choses horribles, etc. Donc je n'applique pas mon programme, je commence par un tour de vis parce que on nous avait caché des choses.
Un chiffre avant de passer la parole à Anne-Charlène Bézina sur la dette Covid, en fait, sur les 1000 milliards d'augmentation qui sont dues à Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Il y a un tiers, grosso modo, qui est dû à la dette Covid
moins. Il y a beaucoup moins. Moi, ce que j'ai dit à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est que, en fait, la dette a augmenté de, si je me souviens pas, c'est pas tout à fait 1000, c'est 950, quelque chose comme ça, depuis fin 2016. En fait, le problème, c'est que quand Emmanuel Macron a été élu en 2016, on n'est pas parti d'un déficit zéro. On est parti d'un déficit qui était déjà très, très élevé. Et si on avait et ça, c'est l'histoire de 50 ans de dérive des finances publiques. Si on avait simplement maintenu ce déficit pendant toute cette période, la dette aurait de toute façon augmenté de 650 milliards d'euros.
Ah, d'accord.
Plus de la moitié.
Ah, oui.
Et donc, en fait, le Covid en lui lui-même.
C'est le montant des taux d'intérêt, les 650 milliards, enfin des remboursements.
Oui, des remboursements, oui, oui, sur plusieurs années. Oui. Oui. Et donc le Covid, le quoi qu'il en coûte, etc., ouais. Ça explique 10% de la hausse de la dette, mais pas tellement plus. Hein.
Merci beaucoup François Eckhardt, surtout restez avec nous, parce qu'à mon avis, ce que va nous dire Anne Charlin, ça va aussi vous. Vous inquiéter. Voilà, j'hésitais entre quel mot j'allais utiliser. Anne-Charlène Besnier, je rappelle que vous êtes constitutionnaliste. Beaucoup de questions à vous poser, notamment effectivement sur la faisabilité du budget 2025 pour une session extraordinaire. Juste d'abord un mot sur Macron. Emmanuel Macron qui a dit il y a un risque de guerre civile. Les programmes des deux extrêmes mènent à cette guerre civile. C'est ce qu'il a dit en tous les cas dans un site Génération Do It Yourself. Est-ce que la Constitution prévoit quelque chose en cas de guerre civile?
Alors, c'est simple, dans notre Constitution, on a la déclaration de guerre, qui est l'article 36, oui. Mais bon, là, on serait quand même très loin. Et tout dépend de ce qu'on entend par guerre civile. Est-ce que c'est la guerre des uns contre les autres? Est-ce que c'est une forme de désunion nationale? Mais ce terme de guerre civile, à mon avis, il faut faire attention à comment on l'entend constitutionnellement. Parce qu'il y a un article 16 dans notre Constitution qui permet au président de la République d'actionner les pleins pouvoirs, dont on a entendu parler un petit peu ces dernières semaines. Plein pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, il a l'exécutif entier, tout le législatif et même le judiciaire. Mais pour ça, il faut deux conditions. Un trouble grave sur les institutions de la République, sur l'intégrité de notre territoire, les traités, alors peut-être cette guerre civile justement. Et la deuxième condition, c'est une interruption du fonctionnement normal de nos pouvoirs publics, le gouvernement,
l'Assemblée
nationale.
Il y a beaucoup de subjectifs dedans, non ?
Ça fait beaucoup de conditions. L'idée de l'actionner, c'est quand même un moment politique très grave qui fait vraiment penser à une dictature présidentielle. Le seul précédent qu'on a, c'est le général de Gaulle. Après, le putsch un petit peu des généraux d'Alger qui avaient dit « nous allons marcher sur Paris ». Sauf que le risque, c'est l'accoutumance. Le général de Gaulle dissout le problème au bout de 10 jours et il garde l'article 16 pendant un an. Donc le Conseil constitutionnel peut maintenant arrêter l'article 16 en 30 jours. Mais j'espère que ce terme de guerre civile ne fait pas appel à cet article 16 qui, à mon sens, repose sur des conditions tellement graves qu'on le garde. Le constitutionnaliste Jean Gicquel nous dit que c'est la grosse Bertha. Donc, d'accord. On n'en est pas à la grosse Bertha.
Seul le Conseil constitutionnel peut s'y opposer, s'opposer à la décision du président de la République dans les 30 jours.
Alors, c'est les oppositions qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel au bout de 30 jours. Et si les oppositions ne le font pas, eh bien, c'est le Conseil qui s'auto-saisit lui-même au bout de 60 jours. Donc, on pourrait envisager, dans le pire des cas, que le président de la République fasse ça tout seul et garde 30 jours d'application. Mais encore une fois, cette hypothèse ne paraît évidemment pas sérieuse dans l'état actuel de notre Constitution et dans l'état actuel de la France.
Qui décide une session extraordinaire à l'Assemblée nationale? Alors, ça dépend évidemment s'il y a une majorité absolue, majorité relative, mais s'il y a une majorité... c'est le président qui décide.
C'est le président qui décide.
Il peut dire non.
C'est l'article 29 de notre Constitution qui nous le dit. Mmh. Et on a un antécédent, je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing, mais le général de Gaulle avait essayé aussi à sa manière. En fait, tous nos présidents de la République l'ont plutôt senti comme un pouvoir propre, c'est-à-dire je décide ou non de convoquer cette session. Valéry Giscard d'Estaing, justement, à un moment, refuse même pendant quelques temps. Mais c'est une coutume de laisser l'Assemblée nationale se réunir lorsqu'elle en a besoin. J'ajoute que la session extraordinaire de l'été, celle qui interviendra après la dissolution, elle est de droit, elle est obligatoire, elle est inscrite dans l'article 12 de notre Constitution. Après la dissolution, eh bien, il faut une session pour nommer tous les organes directeurs, pour lancer le travail dans les 15 jours après le fameux 8 juillet.
Et donc, elle dure combien de temps?
Alors là, pour le coup, ça va dépendre de l'ordre du jour. Donc, elle est obligée de se réunir et après, suivant les textes qu'on inscrit, elle peut durer 15 jours, 3 semaines et voire privée de vacations.
D'accord, parce que la question, ça va être aussi bientôt, François Eckel, ça va être une loi de programmation.
Une loi rectificative.
Oui, une loi de finances rectificative. Hein, absolument. Alors, ça nous amène au budget 2025, un budget très très compliqué à faire, quelles que soient les hypothèses du reste. C'est un peu le budget introuvable. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un texte, il y a un budget qui est présenté par le gouvernement. À ce moment-là, il n'est pas accepté, donc on peut avoir un 49-3. Mais le 49-3, en fait, ce qui se passe derrière, c'est que la motion de censure que peuvent déposer des oppositions, c'est parce qu'il y a un risque de dissolution, donc ils peuvent avoir peur derrière. Là, il n'y a pas de dissolution avant un an au moins. Donc comment est-ce que vous voyez cet engrenage ?
tout dépend de la majorité obtenue par le gouvernement qui va sortir des urnes. Est-ce que c'est une majorité relative dans ce cadre-là? Eh bien, on retombe sur un scénario très quatrième république, c'est-à-dire, eh bien, les gouvernements en place, au moment de la composition de leur budget, eh bien, jouent leur place. Les motions de censure, les oppositions se coalisent et le gouvernement tombe. Sauf que si c'est une majorité absolue qui sort des urnes, eh bien, le gouvernement ne craindra pas la motion de censure. Donc, les motions de censure de l'article 49.3, eh bien, amèneront, comme les budgets depuis 2022, à une adoption sans discussion. Sauf que, dans tous les cas, même si on débordait au-delà du mois de décembre, qui est la limite budgétaire, fiscale, financière, comptable de la France,
en plus,
eh bien, il y a un article 47 qui nous dit que le gouvernement peut prendre le budget par ordonnance, au moins pour permettre à la France de fonctionner et de prélever les impôts. Donc, c'est un moment très gouvernemental. Si la majorité est absolue, eh bien, elle passera son budget.
Oui. Donc, il y a un délai quand même. Oui, donc il y a un couperet qui tombe au 31 décembre.
Exactement. Ouais. Pour faire fonctionner la France, parce que au 31 décembre, il faut avoir perçu les recettes, les impôts, et surtout pouvoir fonctionner. L'année budgétaire, elle est au 31 décembre, comptable, financière, fiscale, elle est vraiment cardinale. Donc, pour faire fonctionner la France, eh bien, il faudra un peu, pour éviter les shutdowns à l'américaine, eh bien, il faudra justement un budget par ordonnance.
Mais
un budget de poche.
À votre avis, alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, François Eckel, est-ce qu'il y a un vrai risque de shutdown? Si on est dans le scénario, évidemment, majorité relative.
S'il y a un scénario majorité relative, un risque de shutdown, je ne pense pas, parce que justement,
l'article 47
prévoit cette idée de l'adoption par ordonnance, mais on aura un budget très restreint politiquement. Donc un budget, on va dire, de stabilité, voire même d'attentisme sur un plan politique. Parce que pour arriver à mettre tout le monde d'accord, il faut voter des choses très consensuelles. Et là, ça risque de poser plus de problèmes. J'ajoute que l'audit des finances, c'est aussi une forme d'insulte faite au Parlement, parce que tous les ans, le Parlement fait son audit. Le Haut Conseil des Finances Publiques fait son audit. On a la Cour des Comptes aussi qui assiste le Parlement. Donc, on a déjà de l'évaluation de nos chiffres financiers. Et cette évaluation, eh bien, elle a été en plus corrigée en cours d'année. Donc, je vous rejoins largement, on n'aura évidemment pas de surprise avec cet audit. On est déjà dans une situation financière très compliquée.
François Eckel, un commentaire là-dessus, sur le budget introuvable? Non, vous allez observer et après vous allez décrypter. Il y a aussi un point qui provoque beaucoup d'interrogations sur le plan de la constitutionnalité, même si c'est plus politique, c'est sur les binationaux, qui est dans le viseur du Rassemblement National. Il y a eu un tweet cet après-midi de Marine Le Pen qui dit, attention, c'est une fake news, pas du tout, parce que l'idée, c'est que le Rassemblement National veut interdire à des postes stratégiques des binationaux. Alors, elle a reprécisé, Marine Le Pen, tout à l'heure, en disant, attention, poste stratégique, c'est vraiment que la défense, enfin, vraiment hyper stratégique. Mais est-ce que c'est possible ou pas?
Alors déjà, ça existe, en fait. Tous nos emplois dits de souveraineté, et là, même la Cour de justice de l'Union européenne est d'accord avec nous, et bien sont réservés aux Français. C'est-à-dire que même un ressortissant italien, portugais, et bien de l'Union européenne ne peut pas accéder à ces emplois parce qu'ils sont réservés aux Français pour des raisons stratégiques, précisément. Donc, ça, c'est pas le mot emploi stratégique, mais c'est le mot emploi de souveraineté qui met en cause les prérogatives de notre État. Donc, le risque d'ingérence étrangère, il est assez limité, notamment parce que pour vous recruter à ces postes-là, et bien l'administration a des moyens particuliers de recrutement, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes de conflits d'intérêts personnels, professionnels, sur votre passé, sur vos études, sur votre lien avec votre État. Donc, l'ingérence étrangère, elle est impossible. La seule différence, et je termine Edwige, c'est la différence entre les nationaux et les binationaux. C'est la seule chose que changerait le texte du Rassemblement National. Et ça, à mon avis, c'est complètement inconstitutionnel. Parce que un binational, c'est un national, c'est un Français. Donc, distinguer entre les Français, il faut un motif d'intérêt général. Et là, je ne le vois pas.
Juste un point sur l'exonération des impôts moins de 30 ans. Ça, c'est une disposition du Rassemblement National. Constitutionnel, pas constitutionnel?
À nouveau, il faut un motif d'intérêt général pour distinguer entre les Français. Est-ce que le critère des moins de 30 ans est vraiment quelque chose qui est pertinent fiscalement? Un motif. D'accord. Le Conseil va très loin, il nous demande des critères objectifs et rationnels. Donc, est-ce objectif et est-ce rationnel? On verra.
Voilà, soyons objectifs et rationnels. Merci beaucoup Anne-Charlène Bélisa. Merci beaucoup François Eckel, c'était absolument passionnant, on aurait pu continuer. Beaucoup de questions, vous reviendrez surtout.
Avec plaisir.
Tout de suite, les infos avec Guillaume Paul.
BFM Business, l'info éco.
18h30 sur BFM Business dans l'actualité ce soir. A priori, cette fois, c'est fait. Ursula von der Leyen va repiler pour un mandat de 5 ans à la tête de la Commission européenne. Un accord a été trouvé entre les grandes capitales, Paris et Berlin. Accord également entre les principaux partis politiques. Tout cela devrait être entériné déjà dans un premier temps lors du sommet européen qui aura lieu jeudi et vendredi prochain du côté de Bruxelles. Du côté de l'actualité des entreprises, c'est une information que BFM Business est en mesure de vous confirmer ce soir. Bernard Arnault est entré au capital du géant suisse du luxe Richemont avec une petite participation, Dixit, les infos de l'agence Bloomberg que nous vous confirmons ce soir. Le Suisse Richemont, propriétaire entre autres des maisons Cartier ou encore Van Cleef & Arpels. C'est puis journée épouvantable pour le titre Airbus à la Bourse de Paris. Il a perdu plus de 9%. Pourquoi ? Parce que le groupe a fait un profit warning ce matin sur ses perspectives financières pour l'année 2024. Il livrera notamment moins d'avions que prévu. La commande est forte, mais la sous-traitance a beaucoup de mal à suivre le mouvement. 18h32, on vient dans un instant avec Audrey Tcherkov et tous nos experts pour continuer bien sûr à décrypter l'info ensemble. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, on est reparti. Good evening business en direct jusqu'à 20h, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov avec nous, comme tous les soirs jusqu'à 20h sur BFM Business. Et nos experts, ils sont là. Jackie Isabello, bonsoir Jackie, fondateur du
cabinet
Parlez-moi d'Impact. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi BFM Business plutôt que TF1. Il se passe pas grand-chose, hein. Donc vous voyez, vous êtes aussi bien ici.
C'est quand même beaucoup plus intéressant.
Mais non, il se passe rien. Donc vous êtes aussi bien ici pour commenter l'actualité. Edwige est avec nous. Bonsoir Edwige.
Bonsoir.
On écoutait Charles Benzina qui nous disait, constitutionnaliste, donc on le rappelle, qui nous disait « Mon Dieu, on est devant des semaines, des mois qui s'annoncent haut en couleur. Échéance du budget 2025, évidemment, dont beaucoup parlent en ce moment, mais qui va être le gros morceau de la fin de l'année. »
Ben c'est clair, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations pour savoir... Alors, évidemment, ça dépend s'il y a une majorité absolue. Là, le scénario, il est assez simple. Hein, donc, il a peu...
Mais scénario assez improbable.
Scénario un peu improbable. Ouais. Enfin, assez improbable et à la limite, on ne sait pas si on doit le souhaiter ou pas, mais ce n'est pas la question. En tous les cas, ça veut dire qu'à partir de là, il faut trouver une majorité. Ou alors, on fait un 49-3. Mais le 49-3, derrière, vous trouvez... derrière, il y a une motion de censure. À ce moment-là, c'est une motion de censure contre le gouvernement. Ça tombe.
Forcément. Bah,
si ce n'est qu'il n'y a pas de dissolution possible. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions. Et donc, heureusement, il y a une constitution qui a l'air quand même assez bien faite, je trouve.
Voilà.
Il y a l'article 47 qui dit que, de toute manière, il faut bien prélever les impôts, il faut bien verser toutes les contributions. Et donc, à partir de là, au 31 décembre, il faut qu'il y ait un budget.
Mais c'est un budget minima, c'est ce qu'elle nous dit, en fait.
Oui, mais enfin, il y aura quand même un budget, donc il sera adopté. Un minima, mais il sera adopté.
Voilà, mais en fait, c'est ce que j'ai retenu de positif, c'est un peu le seul point positif, en effet, de cet échange, c'est que quoi qu'il arrive, on va avoir un budget et qui serait, en effet, adapté par ordonnance, mais au moins pour assurer que la France continue de fonctionner.
Mais le shutdown n'est pas possible en France.
Contrairement aux États-Unis.
Charles Mézina l'a dit.
Oui, on en a parlé
pas possible en France, alors que c'est tout à fait possible aux États-Unis, et ça permet de mettre la pression sur tout un tas d'acteurs de l'opinion publique et de forcer les uns ou les autres à lâcher. Donc la France ne peut pas fonctionner comme ça. Après, ce qu'il faut quand même dire aux gens, et notamment quand on parle d'économie, c'est que la Ve République, elle a été construite pour gérer, et on ne le dit jamais, des situations minoritaires. Quand De Gaulle met en place la Ve République, il est politiquement minoritaire. Donc il avait prévu ça, et le 49-3 est l'outil magique. C'est pour ça que je me souviens ici d'avoir piqué une colère sur votre plateau face à une énarque qui n'arrêtait pas de dire que le 49-3 c'était la dictature. C'est une hérésie. Sortir de l'ENA et dire un truc comme ça, c'est pas possible. Donc la Ve République, elle est prévue quand même pour gérer ce genre de choses. On dit trop souvent qu'il faut avoir des majorités pleine. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'elle a été construite, la majorité, du point de vue de De Gaulle et Debré. Donc il faut le dire aux gens et il faut le dire au marché. Après, les deux exercices qui ont été décrits, ils nous offrent effectivement un exercice très très long, et nous avons prévu dans cette constitution des outils qui impliquent que ça doit être voté, et donc que l'État assure cette fameuse continuité qu'on commente aujourd'hui, puisqu'on dit alors est-ce que les fonctionnaires vont se retourner, vont se révolter, vont être au contraire extrêmement fidèles. Non, les fonctionnaires, ils sont là pour assurer la continuité de l'État. Oui. Et vous avez vu que c'est prévu, même sur des choses qui, ici chez Business, sont essentielles. l'argent, oui. Le business.
Oui. Oui.
Enfin, juste quand même sur le 49.3, Jackie, même si on est d'accord en effet que c'est un outil qui permet au pays de continuer d'avancer, quand il est trop utilisé, on est aussi d'accord sur le fait que ça prive le pays d'un dialogue démocratique et par conséquent, ça se ressent dans les urnes.
Dans ce cas-là, alors les ordonnances, ça prive et un chef qui décide. Et un chef qui chef, comme disait Chirac, ça empêche.
Entre utiliser le 49.3 une fois, 10 fois et 30 fois, il y a différence.
Avant, il pouvait être utilisé indéfiniment. Ouais. Depuis la réforme constitutionnelle de Sarkozy en 2008, il est limité en nombre et surtout, il est limité en texte. On ne peut pas l'utiliser comme avant.
Ouais. Donc, aux questions financières et budgétaires.
C'est important de se dire que nous avons un outil désormais qui s'appelle la 5e République.
Oui.
Qui existe depuis très longtemps, qui est quand même un outil très très stable par rapport aux autres, et on a prévu de temps en temps qu'il y avait des blocages, et ces blocages, il faut les faire sauter, parce que ça n'est pas la discussion parlementaire au bout du bout qui est la plus importante, c'est l'avenir d'un pays et le financement des emplois publics.
Et on s'est dit que Michel Debray, le père de la Constitution, avait quand même bien travaillé, bien
comme on dit au turiféraire de la 6e République, finalement la 5e, elle a bien des vertus finalement.
Ça c'est clair à tout point de vue.
Session extraordinaire Parlement, alors il y en a une obligatoire, hein,
c'est oui, ça. Oui, absolument.
C'est ça, pour qu'on ait en tête le calendrier des prochaines semaines.
Voilà. Et après, elle dure 15 jours, avec les trois semaines, en fonction du calendrier, effectivement.
Oui. Bon. Mais alors justement, puisqu'on parle du Parlement, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qu'elle vous a dit sur cette demande, sur cette annonce de Jordan Bardella, s'il était amené arriver à Matignon la semaine prochaine, de faire cette audite. Elle dit que ça serait une offense, justement, par rapport aux parlementaires, puisque c'est leur job, en effet, de s'assurer que les comptes...
Contrôler
les comptes. Sauf que, je rappelle que quand même, entre décembre 2023 et mars 2024, il y a 0,5 points de déficit qui sont sortis du chapeau.
Oui. Alors, oui, mais bon, and so what, j'ai envie de dire, c'est quoi
ça montre bien que le contrôle a ses limites.
Oui, mais le contrôle, ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien que tout ça est quand même très aléatoire. Hein.
Oui.
Comme disait François Eckhall, c'est en fait, il n'y a pas eu tellement dérapage. Moi, c'est le point, pardon, je réponds pas tout à fait à votre question. C'est un point important qu'a soulevé François Eckhall. Vous savez, le grand débat est de dire il y a 1000 milliards, ils ne savent pas gérer, les finances publiques, c'est la catastrophe, regardez dans quelle situation on se trouve, etc. En fait, le regard par rapport à cet audit public que veut Jordan Bardella, c'est... qu'est-ce qui est responsable, où est-ce qu'on a trop dépensé. Mais en fait, vu que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y avait déjà un stock d'endettement considérable.
Oui.
Et sur les 1000 milliards, il y a 647 qui sont dus, en fait, au coût de cette dette. Donc finalement, il n'aurait dérapé que de 300, 350.
Alors voilà un argument qui n'a pas été assez utilisé par Bruno Le Maire.
Mais alors là, je suis complètement d'accord. Je suis très étonnée parce que s'il y a eu 300 milliards, 350 milliards sur le Covid, le coût de le choc énergétique qu'on a connu,
ça s'explique et ça se comprend.
Je veux dire, bon, voilà, c'est beaucoup, mais enfin, c'est pas 1000 milliards.
Ouais.
Et je comprends pas à ce moment-là. Donc, je pense que dès que j'ai fini ici, je vais passer un coup de fil à Bercy en disant mais pourquoi vous n'avez pas utilisé cet argument?
C'est quand même un vrai souci de com, Jackie, vous qui êtes communicant.
Bien exploité par l'opposition. Je pense que dans ce propos un petit peu abscond de Jordan Bardella, on en parlait.
Ah pardon, je croyais que c'était les miens.
Non, pas du tout. J'en en parlais avec Audrey justement cette prise de position de Jordan Bardella par rapport à la Cour des comptes. En fait, il manie deux chiffons rouges. Le premier, c'est de dire le gouvernement nous a dit il y aurait tant de déficit budgétaire, et puis d'un coup, il nous a dit ah ben non, ce sera 5,5. Alors pour tous les fonctionnaires de Bercy, on pourrait lancer une enquête. Je pense qu'il y a énormément de gens, parce qu'il y a quand même des gens très très bons là-bas, qui avaient déjà prévu ce dérapage. Où est la manipulation politique? Je n'en sais rien. Deuxième chose, c'est que rappelez-vous, quand il y a eu la transition entre Emmanuel Macron et François Hollande, on avait parlé d'insincérité budgétaire.
Oui.
Insincérité budgétaire, c'est quasiment une peine de mort pour le business. Enfin, c'est quelque chose de très 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 important. Donc voilà, ce qu'il dit à ses électeurs, c'est je regarderai ce qu'il y a dans la caisse, et il nous prépare au fait
que
pour l'instant,
et notamment
il est
la dette sociale.
Revenir,
Jordan Bardella que j'ai interrogé, seulement sur la question de dette sociale, où il dit que là on va découvrir des tas de choses.
Question justement.
Oui, mais il y a des organes de contrôle. Alors, si c'est ça, dans voilà, il y a quand même des tas d'inspections.
Question par rapport à ça, et on va reparler des retraites après. Peut-il découvrir quelque chose qu'il ne sache pas véritablement?
Vous savez, en France, on en parlera tout à l'heure. Vous avez décerné un prix du livre d'écho à un type qui a dit une chose incroyable. Je ne vais pas dire son nom parce qu'en plus, on en parlera plus tard. Il a dit. En France, on a deux énormes machines productrices de normes. Je dis perfection, mais énormément de normes. Ça s'appelle, un, le PLF, projet de loi de finances. Deux, le PLFSS.
Oui.
Le PLFSS, il voit dans tous les coins. Je veux dire, toutes les administrations remontent des tas de choses. Donc, découvrir demain qu'il y aura 5 milliards de fraudes sur quelque chose qui proviendrait, soi-disant, de prestations sociales perçues de l'autre côté de la Méditerranée, vous voyez où je... Bon.
Alors, okay. Juste un tout petit point là-dessus. Bruno Retailleau, donc, président du commission du groupe parlementaire au Sénat, LR.
Alors lui, justement, il parle vraiment d'insincérité en termes de budget. Hein.
Parce que lui, il dit, le rapporteur donc, de la commission des finances au Sénat, on l'a envoyé à Bercy, ils ont été obligés de le recevoir. Et puis en plus, il y a des fonctionnaires qui étaient trop contents de lui donner des documents qui montraient qu'il y avait encore pas mal de choses planquées sous le tapis.
Effectivement.
Alors ça, moi, je pense, les sénateurs sont plutôt des gens assez sérieux, notamment Bruno Retailleau. Je pense que ça sera très intéressant d'essayer d'avoir ces documents pour voir combien...
Moi, ce que le politique
le fameux audit
a dit aux fonctionnaires de mettre sous le tapis. Mais que les fonctionnaires le découvrent, moi, j'y crois pas deux minutes.
Ouais, ça, bon, alors justement, puisqu'on est sur le sujet des élections législatives, alors quoi de neuf aujourd'hui? Alors, il y a une petite précision sur le sujet des retraites de la part du Rassemblement National qui ne s'est pas vraiment étendu sur les chiffres donc hier.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et le RN qui a apporté une petite précision, effectivement, sur les retraites. L'abrogation de la réforme, a dit ce matin le député RN Jean-Philippe Tanguy, et les réaménagements proposés par le parti, tout ça coûtera 9 milliards d'euros à terme, même s'il reste encore des questions sur ce que veut faire le parti. Vous avez compris la position du RN sur les retraites à ce stade, Jackie, ou ça reste...
Vous connaissez cette fameuse citation, si vous avez compris quelque chose, c'est que je me suis...
Alan Greenspan,
c'est ce qu'on dit. Je crois que sur les retraites, personne n'y comprend rien. Ils sont emberlificotés dans ce sujet, découvrant chaque jour la masse de ce que représente le moindre point ou la moindre année de cotisation.
Mais vous vous rendez compte
concerne les retraites. 380 milliards, 700 000 personnes qui partent à la retraite cette année, c'est une cohorte de retraites, c'est des budgets gigantesques. Quand on augmente d'1%, les retraites complémentaires, c'est 15 milliards. Enfin, vous voyez, ce sont des masses budgétaires.
Le décalage d'un an de l'âge de départ à la hausse ou la baisse, c'est 15 milliards de recettes fiscales en moins. Ce chiffre.
Et d'autant plus que lors de la dernière réforme des retraites, Elisabeth Borne avait lâché énormément de choses sur les carrières dites longues ou les départs précoces, selon qu'on est positionné d'un côté ou de l'autre.
Alors, sur les carrières longues, c'est 1,6 milliard, non?
Oui, c'est ça.
À un moment, il faudra qu'on arrête de s'envoyer des chiffres.
Mais alors, justement, Edwige, puisque vous avez interviewé Jordan Bardella la semaine dernière, vous n'étiez pas tout à fait satisfaite de ses explications. C'était pas très clair. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus clair pour vous?
Bah, oui et non. C'est-à-dire qu'on est toujours au même point. C'est-à-dire que, il y a un point qui est clair, mais qui était déjà clair jeudi, c'était sur les 60 ans.
Oui. Et les 40 annuités.
Voilà. Et les 40 annuités. OK. Après, j'abroge la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. On est à 64 ans.
Oui.
Mais on reste à 64 ans parce qu'on sera à 62 ans. Le retour à 62 ans ne se fera qu'après l'audit.
Oui.
Donc, pour l'élection présidentielle.
Donc jamais.
Je pense pour l'élection présidentielle. Enfin, une chance que ça soit pour l'élection présidentielle.
J'espère que les marchés vont d'un coup lever le doigt et dire on ne dit jamais rien, mais on va vous faire voir comment on parle. Et généralement, vous le savez, ça s'est passé en Angleterre à l'époque de ce micro-budget tenté par Mme Truss. Les marchés ne disent rien jusqu'au moment où vous jouez un peu trop avec les retraites de la retraitée japonaise ou l'investissement de la retraitée japonaise. Et ça, c'est... Alors après, juste un point. Sur les retraites aussi, ce sur quoi il faudrait interroger Jordan Bardella, c'est dire, vous savez, tous les critères qui sont utilisés pour faire ces scénarios. Il y en a un qui est important, dont on parle quasiment jamais alors qu'on en parle partout, c'est le solde migratoire. Il fait partie des critères qui sont utilisés pour établir les scénarios de constitution des retraites. Le solde migratoire, si d'un coup il se réduit comme peau de chagrin, eh bien ce sont des budgets qui vont se réduire. Et on sait déjà que sur les 380 milliards de retraites, il y en a 257 milliards, c'est les cotisations. Ces cotisations, elles ont tendance à se réduire, vous voyez. Donc si le solde migratoire se réduit encore,
ça fait bien quid. Alors quand même, parce que justement, sur le sujet de l'immigration, c'est pareil, il y a eu une sacrée évolution du positionnement et de la sémantique de la part du RN qui parle aujourd'hui d'immigration de croissance. Donc on voit qu'ils reviennent aussi sur ce totem de l'extrême droite.
Edwige. Oui, non, ça reste quand même assez flou. Sur ce point-là, sur les retraites, j'ai juste un point. Est-ce que vous vous souvenez, parce que pour le nouveau Front populaire, Le retour à 62 ans, ils l'ont chiflé à 20 milliards de mémoire.
Oui.
Ah, donc les chiffres, ils correspondent pas complètement.
Non. Si 60 ans, c'est 80 milliards par an, si mes chiffres sont les bons.
Retour à 60 ans. Alors j'avais un chiffre en tête de l'Institut Montaigne, je crois, qui était à 30, 40 milliards dans ces eaux-là.
Donc c'est des masses colossales, c'est des transferts absolument sur la base de cotisation. Non, sur la base de cotisation, en fait, c'est le moyen de s'en sortir, mais ça prendra encore quelques années, du moins je l'espère. C'est la fin des générations des baby-boomers.
Oui.
Moi, évidemment, je suis un peu baby-boomer, mais donc il faut attendre que je sois mort pour qu'il y ait un rétablissement.
Le nombre d'emplois se réduit, la productivité baisse. Donc si on fait sortir les seniors, la productivité baisse.
Mais d'ailleurs, en fait, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que si on abroge la réforme, on revient aux régimes spéciaux?
Les régimes spéciaux, certains là, ne sont quand même pas concernés, vous l'avez vu. Il y en a quand même certains, et notamment avec la clause du grand-père, à qui on a dit on va laisser sortir gentiment tout le monde et uniquement les nouveaux sont concernés. C'est une manière de sortir de cette réforme des retraites des dizaines et des dizaines de milliers de personnes.
Juste, puisque vous parlez des marchés, et ça va nous ramener à ce que disait François Haeckel, qui disait on voit que les marchés, effectivement, dans un premier temps, après la dissolution, se sont un petit peu emballés, et puis tout ça s'est calmé parce que les marchés, dit-il, ont une chose en tête, c'est que...
La BCE,
la Banque Centrale Européenne, sera là jusqu'à un certain point, et précise quand même si les choses devaient déraper. Jusqu'à un certain point.
Mais il fait plus que préciser. Moi, ce que j'ai retenu, qui est quand même très loin, parce que c'est un monsieur responsable, François Haeckel, c'est un peu le pape des comptes publics. Ouais. Enfin, c'est un professeur, il est très respecté, on est d'accord. Okay. Lui, il dit, je redoute, je pense qu'il y aura un éclatement de la zone euro. Donc moi, je ne pensais pas que ça irait, que le risque allait aussi loin. Oui. Et lui pense qu'il y aura un éclatement de la zone euro.
Il y aura un
pays du Nord qui va sortir. Et absolument, une fois qu'il y en a un qui sort, les autres vont suivre.
Oui, est-ce que ce n'est pas un peu pessimiste quand on sait qu'en 2020, la BCE a gonflé le budget de programme de rachat de dettes de 600 milliards d'euros, que par ailleurs, elle a déjà racheté des dettes souveraines de pays qui étaient en difficulté au sein de l'Union européenne pour éviter l'effet contagion. Je ne vois pas pourquoi elle ne le ferait pas pour la France si
un jour,
on en avait besoin. Et on précise qu'on en est loin.
Oui, mais parce qu'il y a deux conditions. Il faut respecter les règles de Maastricht.
Oui, c'est ça.
Donc ça veut dire faire des économies et avoir justement le retour à une trajectoire.
Dans une situation un peu injuste. C'est-à-dire que...
On est d'accord.
C'est-à-dire cette mise en péril financière dans les conditions qui sont soit on est attaqué par des fonds souverains, comme ça a pu être le cas. Si jamais c'est parce qu'un gouvernement décide de mener des politiques publiques qui sont dépensières,
parce qu'il anticipe le fait qu'un gouvernement d'extrême droite ou d'extrême gauche dirait effectivement BCE, vous ne laisserez jamais tomber la France. Et lui, non, il ne faut pas partir du tout dans ce genre de calcul.
Il dit qu'effectivement, dès que la BCE ne laissera jamais tomber, mais qu'il y en a un qui dira en haut, on va peut-être sortir de la zone euro.
Oui, mais Edwige, vous le savez mieux que moi, quand est-ce que l'UE a imposé vraiment le respect de ses règles économiques, pour le moment, combien de pays sont en procédure de déficit excessif et depuis combien d'années? Est-ce que les amendes ont été appliquées?
C'est quelqu'un qui les respecte, ça peut être le Danemark ou un autre,
Oui, mais ça a des effets très importants.
On est d'accord avec ça. Je vous dis juste que la BCE n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un effet de contagion au sein de l'Union européenne.
Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, ce qu'on ne dit pas, c'est que demain, ceux qui vont arriver au pouvoir, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, quand ils vont se mettre autour d'une table, ils vont dire maintenant, vous parlez autrement, on n'est plus en campagne, ils vont leur sortir les chiffres et ils vont leur sortir également les rapports d'intérêt qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe, les impacts que ça peut avoir de prendre des décisions complètement déraisonnables comme ça veut dire dire que du jour au lendemain. Vous vous rappelez, quand on a commencé à commenter l'IRA, on s'était dit, ouais, les Américains, ils essayent un peu de nous faire peur. Il y en a qui disaient, ils vont le mettre en place, et d'autres qui disaient, à mon avis, c'est un espèce de chiffre.
Ouais, on s'est
et
vite
on a vu
rendu
qu'ils
compte.
L'ont mis en place de manière extrêmement
rapide.
Massive, efficace et rapide. Ouais. Si jamais ils demandent à leurs entreprises de cesser tout business en Europe, et je vous rappelle que c'est arrivé. C'est arrivé au moment de la première guerre du Golfe. Rappelez-vous, au moment de la première guerre du Golfe, l'ensemble des sociétés américaines s'est arrêté de faire du business en France et en Europe. Il y a énormément d'entreprises qui travaillaient avec des multinationales américaines qui sont tombées du jour au lendemain. Donc, ils sont capables de faire pression sur un gouvernement avec ce genre d'attitude, les Américains.
Non, mais je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je disais déjà hier, c'est que quand vous rencontrez, ce que j'ai eu l'occasion de le faire ces derniers jours, des gens du private equity ou des représentants des grandes banques américaines, ils disent, tiens, on voulait renforcer le bureau à Paris parce que, justement, il y avait cette espèce d'attractivité. Là, on dit pause.
Oui, c'est ça, il y a un attentisme.
Qui va, voilà.
Qui peut durer longtemps.
Qui peut durer longtemps, voilà, c'est la bonne expression.
Quelques semaines, voire quelques mois.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, cet attentisme dont vous parlez, Nemige, il est là. Il vient de la part des investisseurs, mais aussi de la part des petits épargnants. On voit que, enfin, du plus petit portefeuille au plus gros, tout le monde, en effet, attend de voir.
Et on parlait du secteur de l'immobilier, là aussi, beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Enfin, la liste est très longue. Deux minutes pour vous demander ce que vous pensez du fait qu'a priori, Ursula von der Leyen va rempiler à la tête de la Commission européenne.
Oh, quelle surprise.
C'était attendu. Voilà, quelle surprise. Accord trouvé entre les grandes capitales aujourd'hui, Paris et Berlin, entre les principaux partis politiques européens.
Ursula von der Leyen.
Doit-elle rempiler pour 5 ans, finalement, pour vous? On a deux minutes, là.
Maintenant, il n'y avait pas tellement d'autres candidats. Donc, l'Allemagne est en meilleure posture que nous. Non, elle n'avait pas vraiment de candidats. Thierry Breton, à un moment, a espéré se mettre dans la liste, enfin, se mettre en concurrence.
Ouais,
évidemment,
c'est raté.
Ça a été plus que raté. Enfin, il a rapidement décroché.
On ne lui a pas rendu service spécialement sur ce plateau, j'avoue, en parlant de dossier Atos à de bien nombreuses reprises.
Ouais. Et en même temps, dossier qui ne lui a pas vraiment porté préjudice. Voilà, je suis bien d'accord.
Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas encore, c'est les postes clés.
Oui.
Justement, parce qu'il y a deux niveaux. Emmanuel Macron dit qu'il avait été très attentif à ce que des postes clés au sein de la Commission européenne soient donnés à des Français. Jusqu'à présent, on avait un peu déserté. C'était vraiment sous la coupe allemande. Là, espérant qu'il a obtenu des directions importantes. Et puis maintenant, on va voir si Thierry Breton est vice-président, parce que c'est pour ça qu'il a été maintenu. Et s'il y a il n'y aura pas d'autres commissaires européens. Mais enfin, on va voir la position de la France, c'est ça
en tout cas.
Oui,
le nouveau président du Conseil européen, a priori, ça serait l'ancien chef du gouvernement portugais.
Oui, l'ancien président du gouvernement portugais.
Voilà, Antonio Costa.
Je ne sais pas si elle doit être reconduite ou pas, mais en tout cas, politiquement, mène bien cette reconduction. Un, il faut déjà qu'elle soit reproposée par son pays.
Oui.
Pas toujours gagné.
Oui.
Deux, elle a fait un débat des Spitzenkandidaten, pardon du terme un petit peu barbare, dont on avait... Alors vraiment rien à faire en France, hein, parce qu'il est passé complètement sous les radars. Et elle a fait une très bonne prestation. Moi, j'ai écouté Joséphine Staron, qui est une docteure en sciences politiques du think tank Sinopia, qui a fait un débriefing de cette émission, et elle a fait un très très bon exercice. Et puis là, elle est en train de réunir la majorité des présidents du Conseil autour de sa candidature. Maintenant, il restera une majorité des 720 députés du Parlement.
On lui prête justement l'intention d'aller draguer un petit peu les conservateurs.
Pour l'instant, elle se débrouille plutôt pas mal, alors qu'elle a pas mal, on a mal de choses à lui reprocher. Mais force est de constater quand même qu'au moment du Covid, où alors on était quand même tous démunis, eh bien, après cette crise, on se réunit tous pour dire qu'elle a pas trop mal géré le sujet.
Enfin,
elle a été parfaite surtout sur la défense,
sur les sujets de compétitivité et sur les sujets économiques. Force est de constater qu'il y a un vrai décrochage européen.
Bah, de toute façon,
elle n'est pas la seule responsable.
Il ne faut pas déresponsabiliser tout le monde.
Et sur les dossiers écologistes, le mot qu'on puisse dire, c'est que les industriels allemands ne lui disent pas merci. Hein. On en discutait avec un industriel qui nous disait, quand vous demandez au patron allemand du secteur industriel ce qu'il pense de Ursula von der Leyen, c'est quand même assez.
C'est vrai que sur ce sujet,
le pacte vert n'était pas venu pour ça, mais
elle a été Green Deal, puis après elle est revenue en arrière. Donc c'est vrai que la lisibilité de la politique qui a été portée, mais ce n'est pas la seule, n'est pas limpide.
Bien, ben voilà pour
pour cette première partie du débrief de l'actualité ce soir. Merci beaucoup. Jackie, on vous retrouve dans un quart d'heure. Vous revenez 19h15, 20h avec nous, bien sûr. Edwige, on se retrouve demain, 18h10.
Évidemment. Oui, Augustin de Romanel, président des aéroports de Paris. Bon, ça y est, enfin, il y a la ligne Orly qui va. Qui va enfin jusqu'à.
Que va devenir Orly. L'Orlyval?
Mais, ça, c'est une bonne question. Je vous remercie. Là, ensuite, plus sérieusement, bien évidemment, les Jeux Olympiques. Il y a le trafic quand même de voir le trafic en soi, comment ça se présente, est-ce que l'activité est soutenue ou pas. Et puis, il y a quand même toujours la question de sécurité, parce que là aussi, quand même, la France, on voit que Gérald Darmanin dit, mais de toute manière, tout est suivi, même s'il y a un changement de ministère, il n'y a pas de problème. Enfin, la France, elle est, plus personne ne la gère quand même depuis maintenant depuis le 9 juin. Quoi.
Donc, beaucoup de questions à lui poser demain soir.
Ça sera demain soir, 18h10, Augustin de Romanès sur BFM Business. 18h57, nous, on revient dans un instant.
Oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.